Notre Dieu est bon. Notre Dieu est présent. Notre Dieu est à nos côtés. Il y a tellement de choses qu'on peut dire, mais on ne peut les dire que quand on les expérimente, parce qu'autrement, ça reste des théories. Et vous savez, on peut chanter les meilleurs, les plus beaux et les plus mélodieux des chants. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont monter devant le trône de Dieu. Que nos chants, que nos prières viennent d'abord du cœur. C'est de là que ça doit partir. Parce qu'on pourrait être peut-être pas forcément avec une voix remarquable, mais si notre chant part du plus profond de notre cœur, devant Dieu, c'est la mélodie la plus belle qui se répand. Alors encore ce matin, je voudrais vraiment encourager chacun. Peut-être qu'il y en a qui se disent, ah, je préfère ne pas chanter, ma voix, elle n'est pas... Ou je préfère éviter de prier à haute voix, je ne trouve pas les mots, mais ce n'est pas les mots que Dieu cherche, c'est ton cœur. Alors que le Seigneur nous aide, toutes les fois que nous approchons de lui, de le faire avec et de tout notre cœur. Amen. J'aimerais emboîter le pas de ce qui nous a été partagé la semaine dernière. Qui se rappelle le message de la semaine dernière à part Timothée qui l'a prêché? La grâce, non, les épreuves. Pourquoi l'épreuve? Différence entre l'épreuve et la tentation. Je crois que vous avez retenu tout ça, il n'y a pas besoin d'y revenir. Mais j'aimerais ce matin vous dire que personne n'échappe à l'épreuve. Personne. Elle est là, elle a un sens, elle a une raison. Et Dieu permet l'épreuve pour que nous puissions ressortir, c'est ce qui nous a été encore rappelé la semaine dernière, pour qu'on en ressorte plus grand, plus grande maturité, compréhension aussi de nos limites, pour que notre foi grandisse. On pourrait être tenté de se dire, mais l'épreuve, elle touche que nous, il y en a d'autres, jamais, aucun souci, aucun problème, aucune difficulté. Le livre des Proverbes, au chapitre 17, le verset 3, dira « Le creuset est pour l'argent, le four pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. » Il est beau ce texte, hein ? On le relit ? « Le creuset est pour l'argent, le four pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. » Et parfois, on est étonné de la manière de Dieu de faire les choses et la manière de Dieu d'éprouver le cœur. Les preuves ne sont pas les mêmes pour tous parce que les besoins ne sont pas toujours les mêmes. Les défis ne sont pas toujours les mêmes. Quand on lit la parole de Dieu, on lit certaines histoires, on se dit « Seigneur, qu'est-ce que j'aimerais être comme tel personnage ou tel personnage ?» Vous avez peut-être un personnage qui est pour vous un peu un héros de la foi, non ? Qui ? Job, Joseph, qui encore ? Moïse, qui encore ? David, ok, qui encore ? Élie, ah ouais, Élie, tiens, on va en parler, Élie. Est-ce qu'Élie a vécu des épreuves ? Peut-être pas celles que nous on a relevées. Vous savez, quand on lit les textes de la parole de Dieu, il y a ce qui est écrit dans le texte, mais ce qui est écrit entre les lignes. Et on y passe souvent très vite. Si ce matin on devait penser à l'épreuve d'Élie, on penserait à Élie à ce moment où finalement il se retrouve dans cette caverne et il attend d'entendre la voix de Dieu et il y a différentes choses, événements qui se produisent, mais il dit que ce n'était pas la voix de l'Éternel. Et après, il y eut un murmure doux et léger. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu fais là, Élie ? Alors on se dit, Seigneur, là, il a loupé l'épreuve. Sauf qu'on n'en a pas forcément fait attention aux autres épreuves qu'il a vécues. 1 Rois chapitre 17, verset 1 au verset 9. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et il agit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait plus de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, reste-y, voici que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Amen. » Alors quelle est l'épreuve là-dedans? Alors déjà, comprendre qu'Élie, il se trouve à Galad, la ville principale, il est là, près de celui qui règne, et on pourrait se dire, autant que prophète, c'était là qui devait être sa place. Il aurait dû rester dans cette ville où il avait l'occasion d'annoncer au roi toute la pensée de Dieu. Je vous rappelle que Akab, malheureusement, il s'était détourné de Dieu. Il avait trouvé une épouse qui n'était pas du peuple de Dieu, Jézabel. Cette femme qui, dans la parole de Dieu, on le voit, elle avait un cœur complètement détourné de Dieu. Elle était vouée à l'idolâtrie et son cœur et son âme étaient mauvais. Elle n'avait pas de difficulté à faire verser du sang. Elle était quand même avec une certaine violence, une culture quand même de la violence et de la peur. Ce qu'on ne lui donnait pas, elle le prenait de force. Et dans ce texte, on voit que Dieu parle à son serviteur et Élie, il va, première chose qu'il va devoir faire, c'est prendre position pour Dieu dans sa génération. C'est la première épreuve que tout chrétien devra tôt ou tard vivre, prendre position dans sa génération. Ce n'est pas évident toujours d'être et d'agir comme un chrétien, non? Ce n'est pas toujours évident d'apporter un message tel que Dieu le donne et il dira « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens ». Et je vous rappelle que le peuple, il s'était aussi détourné de Dieu. Ça ne doit pas être forcément évident pour Élie d'être celui qui se tient devant l'Éternel. Alors que dans cette ville, normalement, on devait adorer, louer, glorifier que l'Éternel. C'est plus simple quand on est plusieurs, non? Mais là, il se retrouve dans un endroit où finalement tout le monde s'est détourné. En tous les cas, le plus grand nombre s'est détourné de Dieu. Nous aimerions, vous imaginez si demain dans votre entreprise, là où vous travaillez, tout le monde est enfant de Dieu, né de nouveau. À votre avis, comment elle commence la journée de travail? Hein? On se retrouve, bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Hein? On prie, on loue le Seigneur et après on attaque à travailler. Pendant qu'on travaille, eh bien, quelqu'un entonne un chant et tout le monde répond. Ça serait merveilleux ça, non? Et si vous êtes sur un chantier, voir tous les ouvriers louer le Seigneur. Amen. Et à midi, au moment du repas, et là, une prière s'élève à l'Éternel. Et quand tout le monde a terminé le temps du travail, on ne va pas se quitter comme ça. On va prier ensemble, on va remettre encore cette journée. Ce serait des temps bénis, des temps merveilleux partout. Hein? Moi, je rêve de ça. Hein? Vous imaginez faire le tour des chantiers. Hein? Et même vous baladez dans la rue et vous retrouvez vos frères, vos sœurs, et vous pouvez encore dire, voilà le Seigneur ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui, béni soit l'Éternel. Quel bonheur. Mais c'est loin de ce qu'on aimerait. Malheureusement, plus que jamais, on est là, on regarde ce qui nous entoure, on veille, on surveille s'il n'y a pas des choses étranges qui se produisent à droite, à gauche. Hein, parfois, on se dit, OK, on va faire les courses, mais bon, on va être attentif. On y va et on revient. Hein. On va pas se perdre. On évite les bonnes foules, on évite ceci, on évite cela, parce qu'il y a plein de dangers. Hein. Et bien, pour lui, ça devait être la même chose, voire pire. Parce qu'à cause de sa foi, il devenait une cible. Et parfois, à cause de notre foi, nous devenons la cible, en tous les cas, la cible de l'ennemi. Et là, il va se retrouver face au roi et il va lui dire « L'Éternel est vivant. Toi, dans ton cœur, dans ton âme, toi, t'es mort, mais l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël, souviens-toi, qui est le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens ?» Waouh ! Sommes-nous prêts à nous tenir devant Dieu, même dans des temps troubles, comme ceux que nous vivons en ce moment ? Et à proclamer que l'Éternel est celui qui veille sur nous. Et quand on le fait, certes, on pourrait dire, mais on devient peut-être une cible. Oui, mais mon frère, ma sœur, ça fait partie aussi de cette victoire qu'il faut prendre. Alors avec ça, je ne te dis pas de te balader dans la ville avec une pancarte. Ce n'est pas ça. Mais fais que ta vie soit un témoignage vivant de la présence de Dieu dans ton cœur. Fais confiance à Dieu. Ne laisse pas la peur et la crainte te gagner au point de te renfermer sur toi-même, voire même ne plus jamais dire à qui que ce soit que tu es chrétien par peur de représailles. Première épreuve. Il fait ce discours, et il pourrait se dire, OK, c'est déjà pas mal, Seigneur. Et Dieu lui dit, non, 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 attends, là tu es sorti un tout petit peu de ta zone de confort, on va aller plus loin. Deuxième épreuve, il lui dit, pars d'ici, donc de Galade, et dirige-toi vers l'est, cache-toi auprès du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Alors le mot Kérit veut dire tranchée, gorge. Dieu lui dit, tu vas sortir du là et tu vas dans les tranchées. Deuxième épreuve, accepter d'aller combattre pour Dieu. Ce n'était pas une guerre physique, c'était spirituel. D'ailleurs, vous voyez bien, Dieu l'envoie dans un endroit et il lui dit, écoute, voilà, tu as de l'eau du torrent, tu as de quoi boire. J'envoie les corbeaux, ils vont te ramener du pain et de la viande matin et soir. C'est top. Non ? En réalité, lui, il va vivre un confinement magnifique. Il va vivre quelque chose de particulier. Il se dit, Seigneur, après, je dirais, les émotions, après les moments peut-être, voire même de doute, de crainte que je pouvais vivre dans la ville de Galate, tu m'as ramené dans un autre endroit. Seigneur, qu'est-ce que c'est merveilleux. Les corbeaux me ramènent à manger. J'ai de l'eau. Qu'est-ce qu'il me faut de plus? Mais là, il connaît la solitude. Et la deuxième épreuve, c'est d'apprendre à vivre notre vie personnelle avec Dieu, sans passer par les uns et les autres. C'est tellement facile dans notre vie de nous appuyer dans notre vie spirituelle en comptant sur les uns et les autres, voire même le pasteur. Je me rappelle d'une sœur qui m'avait appelé un jour en me disant « Pasteur, qu'est-ce que je prépare à manger aujourd'hui ?» Et j'ai dit « Ouvre ton placard, qu'est-ce que tu as ?»« Des pâtes du riz. » J'ai dit « Ben alors choisis, c'est ou des pâtes ou du riz ?» « Ah bon ?» J'ai dit, « Ben, tu penses quoi que... » J'ai dit, « Tu sais, il faut apprendre à grandir dans ta foi. » Alors, cet exemple, il vous fait sourire, mais c'est une réalité, hein, croyez-moi. Il va m'appeler tous les jours pour lui faire le menu. Déjà, moi, j'ai ma femme qui me dit, « Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ?» Hein, je ne vais pas faire le menu pour tout le monde. Hein ? Mais en réalité, c'est qu'elle était restée, excusez-moi, enfantin dans sa vie spirituelle. Tant et tant d'années à l'église, en réalité, elle allait au culte, mais le culte n'allait pas à elle. On peut aller à l'église, on peut entendre la prédication, mais est-ce que la prédication résonne dans notre cœur ou que dans nos oreilles? Parce que si c'est que dans nos oreilles, vous savez, on oublie vite. Tout à l'heure, j'ai fait un exercice. J'ai demandé qu'est-ce qui a été prêché la semaine dernière. Il y a eu des réponses un peu différentes. Ça veut dire que on a peut-être entendu d'autres choses et c'est ça qu'on a retenu en dernier. Ou on n'a retenu qu'une partie. Parce que certainement, quelle est la prédication? Donc, on ne parle pas au moins une fois de la grâce. Tu as parlé de la grâce la semaine dernière? Ah, c'est bon. Alors, ça, c'est bon, on peut checker. Toutes les choses, on en parle, ça fait partie. Mais finalement, mon frère, ma sœur, est-ce que tu es en train de considérer que le temps qui est là est aussi un temps d'épreuve pour que l'Église, finalement, elle s'approche davantage de Dieu? C'est tellement pratique d'aller à l'Église, non? Il y a quelqu'un qui a préparé des chants, on arrive, on s'assoit. Et c'est un peu comme au resto, on nous ramène les plats les uns après les autres, on ne s'est même pas embêté à choisir le menu. Hein? Celui qui nous connaît, il l'a fait pour nous. C'est magnifique. Et on chante, ah, je l'avais à cœur ce chant. Et après la prédication, ah, c'est super bon, sur la fin, il m'a repris un peu. C'était un peu piquant à la fin. Hein? Mais dans l'ensemble, c'était bon. Et après, on se dit, Seigneur, vivement le prochain repas spirituel. Mais si on fonctionne comme ça, on ne devient que des gloutons. On prend du poids et pas du bon. Parce qu'on fait preuve d'obésité intellectuelle. Et pas véritablement de se nourrir pour grandir, pour développer et finalement mettre en œuvre ce que Dieu voudrait qu'on mette en œuvre. Donc on a besoin par moment que Dieu nous ramène à l'essentiel. Et je voudrais vous dire, à mon avis, les temps qui vont suivre, Dieu va nous amener à l'essentiel. On a déjà vu quelque chose comme ça il y a quelques années en arrière, au temps du Covid. Mais les temps que nous vivons ici, maintenant, ils nous rappellent que l'horloge, hein, de la fin des temps, il va vite, hein, il n'est pas ralenti par quoi que ce soit. Ça va vite. Et finalement, le Seigneur te dit aussi, toi, mon frère, ma sœur, mon enfant, place-toi finalement dans un cœur à cœur avec Dieu. Tu as besoin de redécouvrir, ou en tous les cas, peut-être pour la première fois, les tranchées là où finalement tu te mets, tu sais qu'il y a un combat. Jusque-là, d'autres ont combattu pour toi. C'est facile quand les autres combattent pour nous. C'est comme les enfants, tant qu'ils sont petits, ils savent que papa et maman s'occupent de tout. Hein? Moi, je me rappelle quand on s'est mariés, tu te rappelles, Elisabeth? C'était hier. Hein? La première fois qu'on a été faire des courses, on est revenu avec deux sacs de courses. On s'est dit, avec ça, trois jours, il n'y avait plus rien. Hein? On s'était dit, avec ça, ça devrait le faire. Tu parles, et alors tu repars faire les courses. Et là, tu te dis, oula, je n'avais pas fait les calculs comme ça. Hein? Ça consomme une épouse quand même, hein? Et tu refais tes courses et après tu te dis, ok, mais là on va faire le fin de semaine. Est-ce que tu as prévu quelque chose pour dimanche? Ah non. Eh bien heureusement, on va manger chez la belle-mère. Mais lundi, eh bien il faut repartir faire des courses, non? Et on se rend compte qu'en effet, il y a des choses qu'on les découvre à fur et à mesure. Quand on accepte le Seigneur, on accepte de tout notre cœur, on se dit, voilà, tout va bien maintenant. Les temps de tristesse, de souffrance, c'est passé, c'est terminé ça. Ça, c'était avant, maintenant tu verras, ça ira bien. Et après, tu te rends compte, d'un coup, tu te retrouves en plein désert, tu dis, attends, qu'est-ce qu'il m'a raconté le frère? Il m'a vendu un produit que c'était pas le bon. Hein. J'ai dû prendre le mauvais ticket, moi, pourquoi je suis dans le désert? Ah oui, j'ai oublié de te dire, les temps qui précèdent, les temps qui suivent, c'est des temps où tu vas être tenté, mais à toi de t'accrocher sur Christ. Ok, et une fois que ça s'est passé, tu verras. Ah bon, ok. Et après, on se dit, Seigneur, merci, le temps de la tentation est passé, tout va bien, on se retrouve avec les frères, les sœurs, et il y a d'autres combats qui viennent. Et là, encore une fois, on va revoir le pasteur, on lui dit, mais pasteur, je ne comprends pas, c'est normal que j'ai des combats. Ben oui, heureusement que tu en as. Ah bon? C'est comme ça que ça marche? Ben oui, si tu n'en as pas, c'est que tu n'es pas sur le bon terrain. Ah! Et c'est là qu'on commence à se gratter la tête et on se dit, Seigneur, mais comment je vais faire? Mais le Seigneur, en effet, mon frère, ma sœur, mon ami qui est là, peut-être là pour la première fois ou la deuxième, Seigneur, tu n'as jamais caché toutes ces choses-là. Hein. C'est que parfois, on n'entend que ce qu'on veut entendre. Et qu'on ne retient que ce qui nous arrange. Élie, va se retrouver dans les tranchées. Mais on va lui dire, ben là-bas, il est dans les tranchées, il a de combats avec personne. Il a des combats avec lui-même. Parce que dans cette solitude, il y a des choses peut-être auxquelles tu t'étais habitué que tu vas devoir accepter, de mettre de côté. Qu'est-ce que tu manges ? Du pain et de la viande. Ok, mais Seigneur, les petits apéros. Seigneur, il y avait les petits à côté dans ma vie personnelle. Il y avait des choses auxquelles j'étais attaché. Il y a des choses auxquelles... Et le Seigneur te dit, mais maintenant, ces choses-là, elles font partie de la vieille vie. Alors, le problème, ce n'est pas de prendre un apéro, hein, comprenez bien. Mais peut-être qu'il y a des choses dans notre vie, tant qu'encore, ils ont besoin d'être épurés, d'être éliminés. Ce n'est pas l'essentiel dans ta vie. Peut-être que tu demandes au Seigneur des choses qui ne sont pas nécessaires. Cherchez premièrement le royaume. Et tout le reste vous sera donné en plus. Mais tu dois finalement amener ton attention ailleurs. Et là, il apprend cette leçon, Élie, parce qu'il en avait besoin. Parce que vous savez, à un moment, nous, on regarde Élie qui prie et le feu qui descend du ciel. Qui voudrait que dans sa prière, le feu descend du ciel ? Amen. Mais avant d'en arriver là, il faut accepter que le Seigneur épure notre cœur. Parce qu'autrement, à jouer avec le feu, on se brûle. À jouer avec le feu, on risque de faire de grandes erreurs, de grands problèmes, de grands soucis. Donc Dieu l'amène là et lui dit, écoute, maintenant tu vas passer pendant un temps là. Et après, la parole de Dieu nous dit que voilà, les choses se passent. On ne sait pas combien de jours, on ne sait pas combien de semaines, on ne sait pas combien de mois. Mais il y a un moment où après, il lui dit, écoute, maintenant, tu pars. Lève-toi, verset 9, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, reste-ci, voici que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et Sarepta, vous savez ce que ça veut dire ? Lieu du fondeur, de l'orfèvre, raffinerie. Il avait besoin encore d'être affiné, Élie. Avant de pouvoir faire une prière et faire descendre le feu du ciel, il avait besoin lui aussi de passer par ce travail du fondeur qui finalement change les choses dans nos vies. On aime et on désire être ces hommes et ces femmes de prière qui reçoivent de la part du ciel une puissance particulière. Mais frères et sœurs, la puissance de Dieu ne se manifeste pas comme ça. On doit accepter d'abord qu'on soit purifié et que nous devenions ce peuple que Dieu attend que nous soyons, un peuple saint. Quand Moïse se retrouve avec Dieu, il ne parle pas du temps, des vacances, de la retraite. Vous avez vu un texte, vous, où Moïse parle de sa retraite. Il est passé de la fin de son travail à la gloire céleste d'un coup. Il n'a jamais touché les ascédiques. Mais parce qu'en réalité, le problème, il n'était pas là. Son seul désir était de faire la volonté de Dieu. Le désir le plus grand pour Moïse était d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que c'est le cas pour nous ? Vraiment ? On prend le temps d'être dans la présence de Dieu. Ah, là, ça coince un peu. Parce que tu sais, les journées sont faites de 24 heures sur les 24. Tu en enlèves 8 de sommeil pour un bon dormeur. Ceux qui dorment un peu moins, 5. Mais bon, il y a des valises sous les yeux. Hein? Et après, Seigneur, tu comprends, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et à la fin, si j'ai un peu de temps, je prie. Merci Seigneur pour le repas. Amen. Et on attend de voir le feu du ciel avec ça. On est loin de la réalité. Hein? On est loin, et c'est pour ça que parfois Dieu permet certaines situations pour que nous aussi on se retrouve, excusez-moi, à Sarepta, au lieu du fondeur, où le Seigneur finalement nous dit, ben écoute, là maintenant tu es obligé, excuse-moi, tu es coincé un peu, tu vas être obligé de voir la température monter, et il y a des choses dans ton cœur qui vont être épurées. L'affinage commence par notre cœur, et vous savez, il faut réaliser et accepter d'être éprouvé. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, il écrit ceci, « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que l'épreuve ne soit pas pour vous un échec. Que ne soit pour vous un échec. À moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. Waouh ! On en est où avec notre épreuve ? Ça confirme bien que notre cœur est enraciné en Jésus-Christ ou nous sommes un échec. L'échec se prouve pour celui qui finalement y pense que vivre Christ, c'est juste une religion. L'échec, c'est pour celui qui croit que servir Dieu, c'est juste faire des œuvres, voire même donner un peu. J'ai donné un peu l'aumône à Dieu, hein ? Il se débrouillera avec. Hein ? Je donne une pièce, c'est bon pour le Seigneur. Lui, il est riche. Des fois, vous savez, c'est nos raisonnements. Hein ? On est loin de la petite veuve qui a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Ah oui, mais attention, la doctrine de la prospérité. Ben, on n'est pas en train de prêcher la prospérité. Hein ? Loin de dire que si vous donnez, Dieu vous donne, ce n'est pas ça du tout. Mais il est question pour nous d'honorer Dieu, pas seulement en parole, mais aussi en acte. Et honorer Dieu, ça veut dire qu'on compte sur Dieu. Et encore une fois, quand Dieu amène à Sarepta Élie, il lui dit, maintenant c'est une veuve qui va prendre soin de toi. Ce n'était pas évident d'accepter qu'une veuve prenne soin d'un prophète, alors que normalement, la règle c'était justement à tout homme, à toute femme, de prendre soin des veuves et des orphelins. Dieu le met dans une position qui n'est pas évidente. On n'aime pas être dépendant des autres, non ? Et encore plus d'une personne qui déjà, la pauvre, elle a du mal à s'en sortir toute seule. Et d'ailleurs, quand vous regardez le dialogue avec cette veuve, il y va, il lui dit, écoute, donne-moi à boire. Il lui donne à boire, fais-moi un biscuit. Mais j'ai rien à manger. Oui, d'abord, fais-moi un biscuit, après tu manges. Non mais attends, tu n'as pas compris, il me reste un peu de farine. Oui, j'ai compris, fais-moi un biscuit. C'est celui qui est têtu, il veut le gâteau, il veut le 4 heures. Il dit, ne t'inquiète pas, tu verras que Dieu multipliera, tu ne manqueras pas. Et Dieu a pourvu toujours à la farine et à l'huile, elle, son fils. Dieu ne les a pas laissés mourir. Mais il fallait accepter d'abord de tendre la main et de dire, écoute, voilà, je suis dépendant de ce que toi tu vas faire. Il y a des moments où Dieu nous apprend aussi à être dépendants les uns des autres. Et ça, c'est un truc qu'on n'aime pas trop. On aime bien être chevalier seul. Les Don Quichotte de la foi. Et qui se battent avec les moulins à vent, oui. Mais la foi, ce n'est pas ça. Le véritable combat du chrétien est celui qui se mène auprès des uns et des autres, avec eux, pas contre eux. Avec eux. Ensemble, dans la tranchée. Ensemble, quand on est dans la difficulté. Ensemble, dans les temps de larmes, mais aussi ensemble, dans les temps de victoire. Parce que Christ est victorieux. Et là, la parole de Dieu nous dit que finalement, il nous demande de nous examiner. N'oublions pas que, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 16, « Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. » Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, elle recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, elle en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. On aurait pu s'arrêter avant dans cette lecture. Mais en réalité, l'important, c'est là. Est-ce que tu sais, mon frère, ma sœur, que l'Esprit de Dieu habite dans ton cœur? Est-ce qu'il a toute la place ou tu l'as mis juste dans un petit studio? On restreint parfois la place que Dieu doit avoir dans notre cœur parce que tout le reste prend toute la place. On a tellement de choses dans nos activités. Et Seigneur, tu sais, voilà, tu comprends, Seigneur, heureusement que Dieu comprend. Et on lui donne de moins en moins de place, presque à lui dire, écoute, j'ai un petit placard, ça va te suffire. Mais je vais écrire temple de Dieu quand même. Hein. Ce n'est pas une étiquette que Dieu veut. C'est la première place. C'est être assis sur le trône de ton cœur. C'est être celui qui dirige ta vie. Et finalement, tu as besoin d'éliminer tout le reste pour lui donner la place qui lui revient. Parce que comment Élie aurait pu finalement venir vers Akab et à un certain moment proposer un sacrifice devant tous les sacrificateurs de Baal en disant « Allez, faites votre sacrifice et après on verra où le feu descend. » Et lui, il est seul. Il est seul. Il y a des moments où dans ta vie spirituelle, tu vas avoir le sentiment d'être seul, mais l'essentiel, c'est que Dieu soit avec toi. Et quand la parole de Dieu te dit que ton cœur est le temple du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, sois déjà réjoui, le Saint-Esprit habite ton cœur, donc donne-lui toute la place. Et le feu descendra. Donne-lui toute la place. En Michée chapitre 6, verset 8, il est écrit « On t'a fait connaître au homme ce qui est bien ». Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Il est beau ce programme, hein ? Il y a de quoi réfléchir, on pourrait en faire un message, je ne sais pas, peut-être le message de la semaine prochaine. J'en sais rien, on verra bien. Mais tout a un sens et tout pour nous aider à aller dans une bonne direction. Alors l'épreuve, finalement, n'est pas que seulement quand ça touche à nos moyens, quand ça touche à notre travail, quand ça touche à un membre de notre famille. L'épreuve, elle peut être différente. Le but, c'est de nous faire découvrir ce dont on a besoin, de se séparer, de dégager de notre vie, parce que c'est comme un poids, un boulet qu'on se traîne et qui finalement, il nous empêche d'avancer avec le Seigneur. Alors on va faire une autre lecture. Ensemble, elle est un peu plus longue celle-ci, mais elle est en Deutéronome. Et regardez ce qu'il va dire la parole de Dieu. Vous observerez pour les mettre en pratique tous les commandements que je vous donne aujourd'hui afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour reconnaître s'il y avait dans ton cœur et si tu observerais ces commandements, oui ou non. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Le Seigneur va changer ton régime spirituel. Le Seigneur va changer ta vision des choses. Il va, certes, tu vas te dire, Seigneur, mais pourquoi je dois être humilié? Parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Dieu ne va pas donner et partager sa gloire avec des gens à un but de leur personne. Moi, Dieu te dit, toi, tais-toi. Ah oui, c'est clair. Il y a des fois des prières, moi, je dis, Seigneur, comment ça doit résonner devant toi? Le texte continue. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils. Je dois accepter que Dieu m'éduque. Je dois apprendre à dire, Seigneur, merci parce que l'épreuve, elle est là. Tu es en train de faire mon éducation spirituelle. Tu vas me faire sortir plus grand, Seigneur. Meilleur qu'avant, Seigneur. Au lieu de dire, Seigneur, pourquoi? C'est pas normal. Vous savez, un peu Calimero, version 2023. Hein? Où on est là, on se plaint et on utilise parfois l'épreuve pour nous mettre en évidence. Mais ce n'est pas le but. Dieu est en train de t'éduquer, alors accepte aussi que le Seigneur fasse dans ta vie ce que tu as besoin qu'il soit fait. Et il dit le texte, tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui jaillissent dans la vallée et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel est extrait le bronze. Lorsque tu mangeras et tu rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le pays qu'il t'a donné, le bon pays. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. J'ai souvent noté que le temps de la formation baptême est un temps qu'on prend pour se préparer. On suit la formation parce qu'on a à cœur le baptême, on veut être baptisé. Mais après le baptême, Dieu continue notre formation. Et alors je me dis, mais où sont tous ces frères, ces sœurs, au moment de la formation à la prière? Où sont ces frères, ces sœurs, au moment de la formation à l'évangélisation, à l'étude de la parole de Dieu? Où sont ces frères, ces sœurs, au moment de l'étude du jeûne et prière? Parce qu'à chaque fois, on apprend quelque chose et on grandit. Et là, le texte dit, attention, garde-toi d'oublier. Et on est tout de suite passé à la bénédiction de Dieu. Dieu a pourvu à plein de choses. Et du coup, on néglige, on oublie. On est finalement tellement heureux et on prend du temps et tout le reste et on oublie l'essentiel. Lorsque tu mangeras, tu te rassasiras. Lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons. Lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi et que tout ce que tu as se multipliera, prends garde de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il t'a fait marcher dans ce grand et redoutable désert, pays de serpents brûlants, de scorpions et de la soif, où il n'y a pas d'eau. Et il a fait jaillir pour toi de l'eau, du rocher, du granit. Il t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'humilier, de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Voilà pourquoi l'épreuve. Le but, c'est de te faire du bien. On veut le bien, laisse tomber l'épreuve, Seigneur. Hein, on va tout de suite au résultat. Hein? On aimerait que les choses soient plus rapides, mais Seigneur nous dit, il nous connaît. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force est la vigueur de ma main, moi qui ses richesses. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Il y a ces derniers deux versets qui sont à retenir aussi. Si tu oublies vraiment l'Éternel ton Dieu, et que tu te rallies à d'autres dieux, si tu leur rends un culte et te prosternes devant eux, je vous atteste aujourd'hui que vous périrez. Oui, vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Alors attends, frère. Moi, je n'ai pas de statue à la maison. Je n'ai pas de symbole d'idolâtrie. Mais vous savez, l'idolâtrie n'a pas forcément besoin d'une statue. Il y en a où leur travail est devenu plus important que tout le reste. Leur carrière, leur réussite. Il y en a qui ont mis tellement la barre haute pour certaines choses dans leur vie en disant « si je n'arrive là, si je n'arrive pas là, je suis nul, ça ne sert à rien ». Et ils mettent toutes leurs énergies alors que s'ils s'étaient occupés de ce que le Seigneur avait prévu pour eux, ils seraient arrivés déjà là-bas depuis longtemps, hein. La parole de Dieu nous dit que Moïse choisit de souffrir avec le peuple et il fait le choix par rapport aux richesses d'Égypte. Vous ne croyez pas que là aussi le Seigneur nous amène à cette épreuve de dire qu'est-ce que tu vas choisir? Pas évident, hein, d'apprendre la dépendance. Il y a des années de cela, le Seigneur m'avait donné au début de l'année un mot pour moi personnel. Dépendance. Wow, je dis, wow, Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver? Eh bien, j'ai dégusté. Hein. Dépendance de la part de Dieu pour la santé. Dépendance de la part de Dieu pour le ministère. Dépendance de la part de Dieu pour les finances, pour tout. Dépendance en tous les rayons de ma vie. Et j'ai appris à dire, Seigneur, viens à mon secours. Et Seigneur a fait grâce. Et vous savez, je crois qu'il y a des leçons qu'on ne peut pas apprendre autrement que quand on les vit personnellement. Alors certes, dire comme ça les choses, ça pourrait sembler simple, mais quand on les vit, finalement, on découvre que ce Dieu grand et merveilleux veut faire quelque chose de différent dans notre vie. Alors comment faire face aux divers défis et épreuves? Il y a un texte qui m'a encouragé, je voudrais vous le partager ce matin. Peut-être vous l'avez lu à bien des reprises, mais vous ne l'avez jamais lu comme ça. Ésaïe 43, versets 2 et 3. Dans tes épreuves, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Dans tes épreuves, les fleuves, ils ne te submergeront pas. Dans tes épreuves, si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Dans tes épreuves, la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place. C'est pas juste des promesses. C'est la source. C'est le courage. Mais c'est aussi là que Dieu nous amène à vivre une véritable confiance en Dieu. Dans l'épreuve que tu es en train de vivre, mon frère, ma sœur, fais confiance à Dieu. Et Seigneur, c'est pas facile. Dieu a dit qu'il ne permettra pas que l'épreuve soit plus grande que ce que tu peux supporter. Tu sais pourquoi? Parce que c'est lui qui te tient. Oui, mais Seigneur, des fois c'est lourd. Oui, mais il faut muscler ta foi. Abandonne ce qui sert à rien. Des fois, on se traîne des choses dans les valises. Ah là 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 là. Et alors, on se dit, ben voilà, le problème, c'est pas moi, c'est les autres. Je change d'église. Tu changes d'église et les problèmes, ils sont toujours là. Parce qu'en effet, ils t'ont suivi dans tes valises. C'est pas l'église qui a le problème, c'est toi qui as le problème. Et tant que tu fais pas le vide dans ta valise, tes problèmes, ils vont te suivre de près. Ils sont collés à ta peau. Parce que c'est ta personnalité, c'est ton caractère qui a besoin finalement de se laisser modeler par Dieu. Alors on dit, Seigneur, oui, brise-moi. Pas trop petit morceau, Seigneur, quand même. Hein? Façonne-moi. Il y a ce chant qu'on chante. Je ne suis qu'un vase entre ses mains. Vase d'argile entre les mains du... Ah, c'est beau, hein, se sentir entre les mains de Dieu. Mais vous savez, ce qu'on ne voit pas quand le potier travaille, c'est qu'il y a une main qui travaille à l'extérieur, il y a une main qui travaille à l'intérieur. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et ce que tu es en train de vivre, c'est que Dieu est en train de travailler ton cœur, ton âme, ce matin, là même. Et tu te dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Il y a des choses qui sont chamboulées, mais le Seigneur est en train de travailler ton cœur. Il y a une transcription de Ésaïe 43, j'ai trouvé ça. Il dit « La flamme ne te blessera pas, elle a juste pour but de consommer tes scories et de raffiner ton or. » C'est beau, hein? Ah, on prend toute une autre vision de l'épreuve. Ésaïe 41:10, dernier verset. Et là, moi, je vois la main de Dieu, les doigts de Dieu. Regardez. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Alors saisis la main de Dieu ce matin. Amen. On le relit ensemble? On le fait comme une prière. Seigneur, je veux être sans crainte, car tu es avec moi. Seigneur, je ne veux plus ouvrir des yeux inquiets, car tu es mon Dieu. Seigneur, tu me fortifies. Seigneur, tu viens à mon secours. Seigneur, tu me soutiens par ta droite victorieuse. Seigneur, merci pour ta parole encore ce matin qui nous amène, Seigneur, à incliner nos cœurs et nos vies devant toi et te dire, Seigneur, merci. Même lorsque l'épreuve, elle touche nos cœurs, nos vies, Seigneur, merci. Parce que Seigneur, elle a un but. Et Seigneur, ce but, il est glorieux, précieux. Tu veux nous affiner, tu veux nous faire, Seigneur, nous rendre purs comme l'or, Seigneur. Pas n'importe quel or, Seigneur, mais un or qui, Seigneur, ne possède plus de scories, plus de choses impures dans son être entier, Seigneur. Seigneur, tu fais que nos éléments polluants ressortent, émergent. Et il y a ta main qui vient les enlever, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux nous délivrer de ce qui n'est pas bon, Seigneur. Seigneur, merci d'être celui qui tient sa main, Seigneur, sur le thermostat des épreuves. Quand elles sont trop difficiles, Seigneur, là, tu sais aussi comment agir, comment nous aider. Seigneur, nous ne voulons pas voir les temps qui sont là comme des temps où certains se diraient « Mais où est Dieu ?» Mais nous voulons dire dans ces temps « Je sais où est Dieu, il est à mes côtés. Je sais où est Dieu, il est dans mon cœur. Je sais où il est Dieu, il règne. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je sais où il est mon Dieu. Et je sais où je suis. Parce que je suis à ses pieds. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Aide-nous et Seigneur, apprends-nous à la saisir pleinement. Nous te le demandons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.